Chapitre 14. Deux cultures. Ainsi seulement, tu éviteras de flotter dans le vide. Nous nous rencontrerons très prochainement, chère Sophie. Je savais bien que tu finirais par retourner au chalet du major. Aussi, y ai-je laissé les cartes du père de Hilde. C'était la seule façon d'être sûr qu'elles parviennent à Hilde. Ne t'inquiète pas de savoir comment les lui transmettre. Beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts d'ici le 15 juin. Nous avons vu comment les philosophes de la période hellénistique ont rabâché les vieux philosophes grecs. C'était aussi une tentative pour en faire les fondateurs d'une nouvelle religion. Plotin n'était pas loin d'ériger Platon en sauveur de l'humanité. Cependant, nous savons qu'un autre sauveur est né en dehors du territoire gréco-romain, au milieu de la période dont nous venons de parler. Je pense à Jésus de Nazareth. Nous allons étudier dans ce chapitre l'influence grandissante du christianisme dans le monde gréco-romain, tout comme le monde de Hilde lui aussi est entré petit à petit dans notre monde. Jésus était juif, et les juifs appartiennent à la culture sémitique. Les Grecs et les Romains appartiennent, eux, à la culture indo-européenne. Nous pouvons donc affirmer que la culture européenne a deux racines. Avant d'examiner plus précisément l'influence grandissante du christianisme dans la culture gréco-romaine, attardons-nous un instant sur ces deux racines. Les Indo-Européens. Avec le terme d'Indo-Européen, nous voulons désigner tous les pays et les cultures qui utilisent une langue indo-européenne. À part les langues finno-ougriennes, le lapon, le finnois, l'estonien et le hongrois, et le basque, c'est le cas de toutes les autres langues européennes. La plupart également des langues indiennes et iraniennes appartiennent à la famille des langues indo-européennes. Il y a environ 4000 ans, vivaient des Indo-Européens autour de la mer Noire et la mer Caspienne. Bientôt, de grandes vagues de familles indo-européennes se déplacèrent vers le sud-est en Iran et en Inde, vers le sud-ouest en Grèce, Italie et Espagne, traversèrent l'Europe centrale vers l'ouest pour atteindre l'Angleterre et la France, vers le nord-ouest, l'Europe du Nord, et tout au nord, l'Europe de l'Est et la Russie. Partout où allèrent les Indo-Européens, ils se mêlèrent aux cultures préexistantes. Mais très vite, la langue et la culture indo-européenne se mirent à jouer un rôle dominant. Que ce soit les anciens Védas indiens, la philosophie grecque et pourquoi pas la mythologie scandinave de Snorre, tous sont écrits dans des langues parentes entre elles. Mais il n'existe pas seulement une parenté au niveau de la langue. La parenté linguistique va souvent de pair avec une parenté de pensée. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'une culture indo-européenne. La culture indo-européenne est caractérisée avant tout par la croyance en de nombreux dieux. C'est ce qu'on appelle le polythéisme. Les noms des dieux, ainsi que beaucoup d'expressions et de termes religieux, se retrouvent sur l'ensemble du territoire indo-européen. Je vais me contenter de quelques exemples. Les anciens hindous vénéraient le dieu du ciel, Déaos. En grec, ce dieu se nomme Zeus, en latin, Jupiter, c'est-à-dire le père de Iove, ou encore le père Iove. Et en norrois, Tyr. Les noms de Déaos, Zeus, Iove et Tyr ne sont que différentes versions dialectales d'un seul et même mot. Tu te souviens que les Vikings du Nord croyaient en des dieux qu'ils appelaient Æsir. Ce terme qui recouvre les dieux, nous le retrouvons également dans tout l'espace indo-européen. En sanskrit, ou langue classique de l'Inde, on nomme les dieux Asura, ou en iranien Ahura. Il existe un autre mot en sanskrit pour désigner le dieu, Deva. En iranien, Daeva. En latin, Deus. Et en norrois, Tivur. On croyait aussi dans le Nord à tout un groupe de dieux de la fertilité. Par exemple, Njord, Freuil et Freya. On désignait ces dieux par un nom particulier, les Vaneurs. Ce mot est apparenté au nom latin qui désigne la déesse de la fertilité, Vénus. En sanskrit, existe le terme apparenté de Vani, qui signifie « plaisir » ou « désir ». L'étude comparative de quelques mythes simples prouve clairement la parenté qui existe dans tout l'espace indo-européen. Quand Snorre évoque les dieux norrois, certains de ces mythes rappellent des mythes indiens racontés 2000 à 3000 ans auparavant. Certes, les mythes de Snorre sont empreints d'un rapport à la nature typiquement nordique, comme les mythes indiens font référence à une nature indienne. Mais nombre de ces mythes ont un noyau commun qui témoigne de leur parenté d'origine. Nous pouvons distinguer un noyau de ce genre dès les premiers mythes sur la boisson qui donne l'immortalité et sur le combat des dieux contre les forces du chaos. Dans la manière de raisonner, nous pouvons aussi constater des similitudes frappantes entre les cultures indo-européennes. Un signe distinctif concerne la conception du monde, scène où se joue un éternel combat entre les forces du bien et du mal. Les Indo-Européens ont pour cette raison toujours cherché à connaître l'avenir du monde. Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que ce n'est pas un hasard si la philosophie grecque a vu le jour sur une terre indo-européenne. Les mythologies indiennes, grecques et nordiques constituent une base excellente pour des considérations philosophiques ou spéculatives. Les Indo-Européens ont cherché à avoir une certaine connaissance de la marche du monde. Nous pouvons pratiquement suivre le terme « connaissance » ou « savoir » d'une culture à l'autre sur l'ensemble du territoire indo-européen. En sanskrit, on dit « vidya ». Ce terme ressemble fortement au mot grec « eidos »,« idée », qui joue, tu t'en souviens, un grand rôle dans la philosophie de Platon. En latin, nous connaissons le terme « video », mais sur le sol romain, ce mot signifie tout simplement « je vois ». Ce n'est que de nos jours que le verbe « voir » est souvent réduit au sens d'avoir les yeux rivés à un écran de télévision. En anglais, nous avons les termes « wise » et « wisdom », « sagesse ». En allemand, « wissen », « savoir ». En norvégien, nous avons le mot « viten », « savoir ». Le terme norvégien « viten » a donc la même racine que les termes « vidya » en indien, « eidos » en grec et « video » en latin. De manière générale, nous pouvons constater que la vue est le sens le plus important pour les Indo-Européens. Chez les Indiens, les Grecs, les Iraniens et les Germains, la littérature a toujours été caractérisée par de grandes visions cosmiques. Encore une fois, ce terme de « vision » est justement formé à partir du verbe latin « video ». Un autre signe distinctif des cultures indo-européennes, c'est d'avoir sculpté et peint des représentations et des histoires de leurs dieux telles que nous les rapportent les mythes. Pour finir, les Indo-Européens ont eu une conception cyclique de l'histoire. Cela signifie qu'ils vivent l'histoire comme un perpétuel recommencement, une succession de cycles, exactement comme dans le cycle des saisons, le printemps succède à l'hiver. L'histoire ne connaît donc ni commencement, ni fin. Il est souvent question de différents mondes qui naissent et disparaissent dans une succession éternelle de vie et de mort. Les deux grandes religions orientales, l'hindouisme et le bouddhisme, ont toutes deux une origine indo-européenne. C'est aussi le cas de la philosophie grecque. Et nous pouvons faire plusieurs rapprochements entre, d'un côté, l'hindouisme et le bouddhisme, et de l'autre, la philosophie grecque. De nos jours, l'hindouisme et le bouddhisme sont fortement marqués par une réflexion de type philosophique. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, on met souvent l'accent sur l'omniprésence du divin dans tout ce qui est, panthéisme, et sur la possibilité offerte à l'homme de s'unir à Dieu grâce à un savoir religieux. Rappelle-toi Plotin, Sophie. Un grand retour sur soi, c'est-à-dire une méditation, est souvent requis pour y accéder. En Orient, une attitude passive et réservée peut par conséquent former un idéal religieux. Chez les Grecs aussi, beaucoup pensaient que l'homme devait vivre en ascète ou retiré du monde pour le salut de son âme. Ce sont de telles idées du monde gréco-romain qui peuvent expliquer de nombreux aspects du monde des monastères au Moyen Âge. On retrouve également dans un grand nombre de cultures indo-européennes la croyance dans la transmigration de l'âme. Pendant plus de 2500 ans, le but de la vie a été pour l'individu de se libérer de la réincarnation. Nous avons vu d'ailleurs que Platon croyait lui aussi à la réincarnation. Les Sémites. Passons à présent aux Sémites, Sophie. Nous voici face à une toute autre culture avec une toute autre langue. Les Sémites viennent à l'origine de la péninsule arabe, mais ils ont aussi émigré dans différentes parties du monde. Durant plus de 2000 ans, les Juifs ont vécu éloignés de leur patrie d'origine. L'histoire et la religion sémitique sont allées le plus loin de leurs racines par le biais du christianisme et de l'islam. Les trois religions qui ont influencé l'Occident, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont un fond commun sémitique. Le texte sacré des musulmans, le Coran, ainsi que l'Ancien Testament, sont écrits dans des langues sémitiques parentes. Un des termes de l'Ancien Testament pour « Dieu » a ainsi la même racine linguistique que « Allah » chez les musulmans. En ce qui concerne le christianisme, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, le fond est lui aussi sémitique. Mais le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Aussi, quand la théologie ou la croyance chrétienne se sont développées, elles ont subi l'influence de la langue grecque et latine, et partant de la philosophie de l'époque hellénistique. Les Indo-Européens croyaient, nous l'avons dit, à toutes sortes de dieux. Pour ce qui est des Sémites, il est frappant de constater que très tôt, ils ont vénéré un dieu et un seul. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. Que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, la pensée clé est qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Une autre caractéristique sémitique est que les Sémites ont eu une vision linéaire de l'histoire, ce qui revient à dire que l'histoire est conçue comme une ligne droite. Dieu créa un jour l'univers, et ce jour marque le début de l'histoire. Mais un jour viendra où l'histoire arrivera à son terme. C'est le jour du jugement dernier, lorsque Dieu reviendra juger les vivants et les morts. Le rôle joué par l'histoire constitue justement un autre trait sémitique commun chez ces trois grandes religions monothéistes. Dieu intervient dans l'histoire. Plus précisément, l'histoire existe afin qu'à travers elle, Dieu puisse réaliser son dessein. De même qu'il conduisit Abraham un jour à la terre promise, il conduit la vie des hommes jusqu'au jour du jugement dernier. Ce jour-là seulement, tout le mal du monde sera anéanti. Avec une telle intervention de Dieu dans le cours de l'histoire, les Sémites se sont, pendant des millénaires, fortement intéressés à l'écriture de l'histoire. Ce sont justement ces racines historiques qui sont le noyau proprement dit des écrits religieux. De nos jours, la ville de Jérusalem est un centre religieux très important, aussi bien pour les Juifs et les chrétiens que pour les musulmans. Ceci prouve encore une fois la forte parenté historique de ces trois religions. Là, se côtoient de grandes synagogues, juives, des églises, chrétiennes, et des mosquées, musulmanes. C'est pourquoi il est si tragique de voir que justement Jérusalem est devenu le lieu d'un enjeu politique, et que des milliers d'hommes se massacrent parce qu'ils sont incapables de s'entendre pour déterminer qui aura la suprématie sur la ville éternelle. Puisse l'ONU un jour parvenir à rétablir la paix à Jérusalem et lui rendre sa vocation de lieu de rencontre pour les trois religions. Nous laissons cet aspect pratique du cours de philosophie de côté pour l'instant. C'est au père de Hilde de prendre le relais dans ce domaine. Car tu as sans doute compris qu'il est observateur des forces de l'ONU au Liban. Je peux te dévoiler qu'il occupe un poste de major. Si cela te met la puce à l'oreille, tant mieux. D'un autre côté, ne précipitons pas trop les choses. Nous avons dit que le sens le plus important chez les Indo-Européens était la vue. Chez les Sémites, il est frappant de constater que cette fois, c'est l'ouïe qui joue un rôle essentiel. Ce n'est pas un hasard si la confession de la foi juive commence par les mots « Écoute Israël ». Dans l'Ancien Testament, il est écrit que les hommes entendirent la parole du Seigneur et les prophètes juifs avaient coutume de commencer leurs prédictions par « Ainsi parlait Yahvé, Dieu ». Le christianisme attache aussi une grande importance au fait d'entendre la parole de Dieu. Et surtout, le culte juif, chrétien ou musulman, laisse la part belle à la lecture à voix haute, dite « récitation ». J'ai ensuite parlé des représentations divines en peinture ou sculpture. Pour les sémites, il est caractéristique qu'ils ont interdit de représenter Dieu. Cela signifie qu'il est interdit de peindre ou de faire des sculptures de Dieu et de tout ce qui est divin. Dans l'Ancien Testament, les hommes sont frappés de l'interdiction de créer des images de Dieu. Ceci est encore vrai de nos jours dans l'islam et dans le judaïsme. Dans l'islam, on témoigne aussi d'une grande méfiance à l'égard de la photographie et des arts plastiques en général. Derrière cela, il y a l'idée que les hommes ne doivent pas entrer en concurrence avec Dieu et créer eux aussi quelque chose. Mais l'Église chrétienne regorge de représentations de Dieu et de Jésus, me diras-tu. Et tu as raison, Sophie. Mais ceci n'est qu'un exemple pour te montrer justement l'influence du monde gréco-romain sur le christianisme. Dans l'Église orthodoxe, c'est-à-dire en Grèce et en Russie, il reste interdit de créer des sculptures ou des crucifix à partir de l'histoire de la Bible. À la différence des grandes religions orientales, ces trois religions insistent sur le fossé qui existe entre Dieu et le monde qu'il a créé. Le but n'est pas de sauver son âme du cycle des réincarnations, mais de connaître la rédemption du péché et de la faute. La vie religieuse est en outre beaucoup plus marquée par la prière, le prêche et la lecture des Écritures que par le retour sur soi et la méditation. Israël. Je ne vais pas essayer, ma chère Sophie, de rivaliser avec ton professeur d'histoire des religions, mais essayons quand même de résumer brièvement l'arrière-plan juif du christianisme. Tout commença avec la création du monde par Dieu. Tu en trouveras la description dans les toutes premières pages de la Bible. Mais les hommes, par la suite, se révoltèrent contre Dieu. La punition fut que Adam et Ève furent chassés du jardin de l'Éden, mais aussi que la mort fit son apparition dans le monde. La désobéissance des hommes envers Dieu est un leitmotiv dans toute la Bible. Si l'on feuillette le livre de la Genèse, nous entendons parler du déluge et de l'arche de Noé. Puis, nous apprenons que Dieu a conclu une alliance avec Abraham et les siens. Ce pacte, ou cet accord, prévoyait qu'ils seraient les envoyés de Dieu. En échange de quoi, Dieu promettait de protéger la descendance d'Abraham. L'alliance fut renouvelée plus tard lorsque Moïse reçut les 10 commandements sur le mont Sinaï, environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Les Hébreux avaient alors été longtemps tenus en esclavage en Égypte, mais, avec l'aide de Dieu, le peuple hébreu fut ramené en Israël. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, bien avant qu'il n'y ait la moindre philosophie grecque, nous entendons parler de trois rois en Israël. Le premier était Saül, puis vint David, et après lui, le roi Salomon. Désormais, tout le peuple d'Israël était rassemblé dans un seul royaume et connut, tout particulièrement sous le règne de David, une période faste sur le plan politique, militaire et culturel. Quand un roi était choisi, il recevait l'onction par le peuple. C'est ainsi qu'on lui donnait le nom de Messie, Machia, qui signifie « loin ». Sur le plan religieux, le roi était considéré comme le messager de Dieu auprès du peuple. Les rois pouvaient, pour cette raison, porter également le nom de « fils de Dieu », et le pays s'appelait « le royaume de Dieu ». Mais très rapidement, Israël s'affaiblit. Le royaume fut divisé en un royaume du nord, Israël, et un royaume du sud, Judée. En 722, le royaume du nord fut conquis par les Assyriens et perdit sa suprématie politique et religieuse. la situation ne fut guère plus brillante au sud. Le royaume du sud tomba entre les mains des Babyloniens en 586. Le temple fut détruit et toute une partie de la population déportée à Babylone. Cet exil sous le joug des Babyloniens dura jusqu'en 539, date à laquelle le peuple put retourner à Jérusalem et reconstruire le grand temple. Mais, à l'époque du début de l'ère chrétienne, les Juifs continuaient à être dominés. La question que se posèrent les Israélites était pourquoi le royaume de David s'était effondré, attirant dans sa chute les malheurs les uns après les autres. Dieu avait pourtant promis d'être bienveillant envers Israël. Mais le peuple avait de son côté promis de respecter les commandements de Dieu. Israël avait été puni par Dieu pour sa désobéissance. Aux alentours de l'an 750 avant notre ère, on assista à l'apparition d'une série de prophètes qui proclamèrent le châtiment divin parce que le peuple juif n'avait pas suivi les règles fixées par le Seigneur. Un jour viendra, prophétait-il, où Israël comparaîtra devant Dieu. Ces prophéties sont appelées les prophéties du jugement. On vit alors d'autres prophètes se manifester qui, eux, proclamèrent que Dieu allait sauver une partie du peuple et envoyer un prince de la paix, c'est-à-dire un roi porteur de paix qui serait de la descendance de David. Il allait rétablir l'ancien royaume de David et le peuple aurait un avenir radieux. Le peuple qui marche dans les ténèbres verra une grande lumière, dit le prophète Isaïe. Et au-dessus de ceux qui vivent au pays des ombres, la lumière jaillira. Ce genre de prophétie s'appelle les prophéties du salut. Comprenons bien, le peuple d'Israël vivait heureux sous le roi David. Quand la situation se dégrada pour les Israélites, les prophètes annoncèrent la venue d'un nouveau roi de la race de David. Ce Messie, ou Fils de Dieu, allait sauver le peuple, rétablir la suprématie d'Israël et fonder le royaume de Dieu.